Mais enfin, être européen, est-ce que ce serait pas toujours déjà quelque chose d'incertain? À l'heure des hésitations britanniques, on ne parle de ce sentiment d'appartenance que par ce prisme de l'incertitude. Mais peut-être qu'il faut rappeler que l'Europe, elle-même, a toujours été un peu floue, parce qu'elle relève moins du territoire défini ou délimité que de l'idée. C'est une carte mouvante historiquement, sur laquelle apparaissent de nouveaux pays, sur laquelle on hésite parfois à intégrer la Russie, sur laquelle on se dit que tel État ou telle région en sera bientôt sorti. L'Europe, c'est une idée. Et le problème avec les idées, c'est que même si on rêve qu'elles soient arrêtées, il faut accepter qu'on les conteste, qu'on les débatte, ou même qu'on les rejette. Il faut accepter aussi qu'elles restent des idées. L'Europe comme conception de l'esprit, c'est ce qui fait depuis les Lumières son identité. L'Europe qui se nourrit de cultures multiples, depuis la mythologie grecque jusqu'aux romantiques allemands, dans une pléiade de langues, de pensées, de savoirs. Une Europe d'idées, c'est une Europe de culture et de débat beaucoup plus qu'une Europe de marché. Et le sentiment d'être européen, si ça se trouve, bah il se doit de rester incertain.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est européen, à n'en pas douter, sans doute le plus francophone des musiciens helvètes. Voilà près de 40 ans qu'il nous envoûte de sa voix éraillée, de ses vagues de sons, de ses grappes d'accords par milliers. Le mois prochain paraîtra U, un album de reprise de ses propres titres avant l'apparition d'un autre disque de chansons originales en juin. Si ça se trouve, il nous en donnera ce matin un avant-goût. Bonjour Stéphane Escher.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Là. Avant toute chose, quel sens est-ce que ça a pour vous d'être européen?
Je me disais, peut-être un jour je croise un martien, et la police martienne naturellement, et la police martienne va sûrement me demander, vous venez d'où? Et si je commençais du Münchenbourg, c'est banlieue de Berne, ils vont pas comprendre. Suisse, ils vont pas très bien comprendre, et je dirais, vous voyez, il y a un continent qui est basé sur un viol.
Vous parlez du mythe,
le mythe, oui.
Grec, oui. Et là, je rassure les auditeurs quand même. Parce que...
oui, l'Europe s'est basée sur un mythe grec. Et là, ils vont s'arrêter, faire des grands yeux et me laisser parler. Je me sens européen dans le sens, ce mélange improbable de parler avec vous en français. Hier, j'ai parlé en allemand, demain, je parle en italien. Moi, j'adore cette kaléidoscope qu'on nous emporte ici en Europe. Maintenant, politiquement, non.
C'est ça.
J'ai perdu le goût.
Vous pensez à quoi, précisément? À l'Europe d'aujourd'hui, aux errances, au hasard britannique, par exemple?
Ça, c'est très chaud, là, quand même. C'est très, très, très... Ça me trouble, je sais pas. C'est la non-stabilité cherchée par des... C'était demandé par le Premier ministre à l'époque, hein, c'est pour garder son pouvoir, il a demandé le peuple, vous voulez rester ou partir, sans penser que peut-être ils vont dire non. Je trouve ça me trouble aussi. Mais c'est ça l'Europe aussi, c'est un risque, c'est quand même un continent historiquement.
Comment vous la voyez, l'Europe de demain, Stéphane Escher?
Demain merdique, après-demain super.
Vous l'avez dit, vous l'avez sous-entendu, européen, vous l'êtes, parlez langue, vous avez grandi en Suisse allemande, vous parlez beaucoup de langues, le bernois, l'allemand, l'italien, le français. Quelle langue est-ce que c'est pour vous, le français? Tiens.
C'était la langue de Frau Zink. Ça a commencé comme ça, je suis monté la première fois près, avec la craie, comment on appelle le truc là, l'ardoise.
Oui. Au tableau.
Oui, elle a fait une phrase et je l'ai lu assez bien. Elle a dit, ah, vous parlez déjà un peu français.
Ah, vous parlez de votre prof en fait.
Oui, oui, Madame Zink. Vous connaissez
Madame
pas Madame Zink.
Vous l'appelez Frau.
C'était ma prof, Frau Zink. Et puis elle m'a regardé avec un sourire, ah, celui-là est facile. Et elle a remarqué que j'étais mauvais. J'ai pas fait mon bac parce que mon français était trop mal.
Grandir dans plusieurs langues, entre plusieurs langues, à la croisée de plusieurs cultures, de plusieurs histoires. Quel homme est-ce que ça a fait de vous, en fait? Stéphane Escher.
Je crois que le langage programme la façon comme on réfléchit. Je crois que le langage forme, ça je ne sais pas si scientifiquement j'ai raison.
Ça voudrait dire que vous n'êtes pas le même suivant la langue que vous parlez?
Mon cerveau se développe différemment. Et ce cerveau-là qui peut sauter de l'allemand, de l'anglais au français plus ou moins, assez vite, je crois que j'ai un cerveau si on ouvrirait que quelqu'un dit « Oh, c'est bizarre celui-là ». C'est pourquoi je force tous les gens autour de moi de parler plusieurs langues. Je trouve que c'est élégant, quelqu'un qui peut vous parler à votre langue. Par exemple, en allemand, le verbe c'est au début Ça veut dire, s'il y a une discussion politique, on dit de quoi on parle, et après on peut faire quelques adjectifs, et tout le monde dit, on a compris, on continue. En français, c'est vers la fin qu'on dit. On commence avec les adjectifs, et ça fait des longs discours, et tout le monde attend, mais de quoi ils nous parlent? Et après 3 minutes d'adjectifs et des envolées, on arrive, on parle d'un parking ou quelque chose comme ça.
Vous auriez très bien pu rester en Suisse, en fin de compte, Stéphane, mais très tôt, alors que vous n'avez pas 20 ans, vous avez fait une fugue à Paris.
Oui.
Pour quelle raison?
Amour. Mon grand amour à 16 ans, c'est le premier. Elle est allée étudier de la mode à Paris. Ça se faisait dans les années 70. Quand c'est très, tout était encore noir et blanc. Elle a eu peur de me perdre. Et je l'accompagnais.
Et vous parliez pas français alors? Très mal.
Je faisais des petites phrases pour me foutre de votre langage. Toutes les filles de les maquets regardaient ne pas toucher, qui sont devenues des chansons. non, pas trop.
Cette langue française, vous la faites exister, Stéphane Eschard, à travers de très beaux textes, et je pense évidemment à ceux de Philippe Dian. Oui. À quel moment vous vous êtes dit qu'en français, vous préfériez chanter les mots des autres, justement?
C'est venu très tôt, parce que mon français était si mauvais, mais j'ai très tôt remarqué que le public a une fidélité. La France est un peu bizarre. Pour y entrer, pour s'asseoir avec eux, vous êtes un peu grognon, vous regardez les étrangers un peu. Qu'est-ce que c'est?
Pas tout le monde, je vous rassure.
Beaucoup. Mais à un moment, il vous fait un sourire et il vous dit, asseyez-vous. Et il y a une vraie tendresse qui commence et une vraie curiosité que les Suisses ont un peu moins. Et j'ai senti que tout à coup, j'ai un public curieux, attentif et qui me laisse s'asseoir à leur table familiale. C'est un peu difficile d'entrer chez vous, mais quand vous y êtes, on vous garde.
Alors j'aimerais qu'on les entende quand même, juste pour le plaisir, ces mots et cette tendresse qui sont devenus inoubliables. Stéphane Eschard, souvenez-vous, c'est d'abord des déjeuners en paix.
Elle prend son café en riant.
Il chante, c'est vrai.
Ah bah attends.
Plus rien elle me surprend sur la nature humaine. Déjeuner en paix.
Des déjeuners d'ailleurs toujours en bonne compagnie.
Je n'ai pas d'amis comme toi.
Oh non, Stéphane.
C'est 9h, je ne sais pas chanter à 9h.
Vous allez chanter pourtant.
Oh non. Comme toi.
Des amis qui vous accompagnent, même quand ça va pas, dans les hauts, dans les bas.
J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud. Toute la vie devant moi.
C'est bien à chanter là. C'est mieux que moi là.
J'avais les bas. Je crois que je voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas.
Des hauts et des bas, ouais. Stéphane Eschard, dans votre vie. Votre carrière aussi, il y en a eu beaucoup?
Oui. Même dans une journée, ça peut arriver. Je ne sais pas. C'est... À la fin, je crois, c'est le moment. Les hauts et les bas sont, peut être violents, peut être jouissifs, ou peut être nous amener vers des arrêts très très sombres.
J'ai l'impression que vous parvenez toujours à tirer quelque chose, en fait, de ces bas. Cet album de reprise U en est l'exemple. L'idée de ce projet, elle est née de votre retour dans votre ville natale, je crois, pour vous occuper de vos parents.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez redécouvert, d'ailleurs, à Berne?
Il y a toujours plusieurs histoires qui se mélangent jusque je m'arrête et j'essaye de la formuler. Seulement une idée suffit pas, il faut plusieurs. Une, c'était, oui, j'ai quitté Berne à 16 ans. Et j'ai vraiment quitté mes parents à 16 ans assez violemment. On s'est revu 8 ans après, quand j'ai pris le téléphone la première fois, j'ai dit, vous êtes grands-parents maintenant. Quand je suis devenu père, c'est après 8 ans. Là, ils sont entrés dans un âge où les filles et les fils des parents sont pas préparés, on ne prépare pas à l'école. Il y a très rarement de la littérature qui parle de ce moment où c'est vous qui commencez à porter vos parents, les laver, les... Ils ont besoin de vous à un certain moment. Et mes parents ont eu, en 2016-17, besoin de moi. Parallèlement, j'ai eu un grand problème avec ma maison disque. J'ai commencé de plus la croiser dans des studios, mais devant des juges. Et toutes ces histoires ensemble, une idée d'injustice, une idée de « Ok, qu'est-ce que fait cette histoire avec mes parents ?» Je me retrouvais à Berne, parce que mes parents sont à Berne. J'ai fait les mêmes promenades que je faisais quand j'étais 16 ans. Et j'ai retrouvé une ville musicale hors pair. C'est un peu comme Rennes chez, en France, vous voyez qu'il y a...
Et une partie d'un héritage familial, l'héritage Yéniche notamment.
Encore en 2016, devant les tribunaux où j'essayais de défendre ma musique, mes parents qui ont eu besoin de moi, et un film qui est sorti sur des familles de musiciens de Yéniche, qui est une petite population qui habite l'Allemagne du Sud, un peu d'Autriche et beaucoup en Suisse, qui a suivi les périples très douloureux de ces gens de voyage que les Allemands, dans les années 45, 46, 47, ils ont arrêté de poursuivre en Suisse, parce qu'on fait bien les choses, on a continué jusqu'à 70 de séparer des familles. Et dans ce film, qui existe avec des sous-titres français, on a choisi ma famille parce que je suis un peu connu en Suisse. Et on parlait pas dans la famille. Mais j'ai remarqué qu'on parlait pas parce qu'il y a toujours cette peur que l'État sépare les familles. Voilà, c'était caché. Et tout à coup, dans ce film, j'ai remarqué que ça laissait plus de traces chez mon père. Et chez moi aussi un peu. Encore une autre petite injustice peut-être que j'ai combattu avec un spectacle, avec un disque jouissif, dansant.
Oui, c'est ça, musicalement. Ouais. À quoi ça correspond, cette culture yéniche, pour vous?
Oh, les yéniches font comme tous les bons musiciens. Il y a deux chansons qu'on chante. C'est celle-là qu'on fait danser et l'autre qu'on fait pleurer. Ah. Le reste nous intéresse pas vraiment. Et je pense, pour tous les musiciens, c'est un bon choix. C'est musique folkloristique. C'est mon père joue encore. J'étais dans la maison de retraite dimanche. Et il prend sa mandoline et il fait ses petites danses qui s'appelaient, et c'est très intéressant pour la Suisse, des polkas, des mazurkas, qui sont pas du tout des mots suisses, ça vient de l'Est. Et voilà. Moi, j'ai grandi dans ça, après je l'ai rejeté, parce que j'ai commencé à faire du punk, du new wave, du cold wave, du déjeuner en paix, des choses comme ça. Et là, en visitant mon père, ranger tous ces instruments qui se sont accumulés, tout à coup on remarque, ah non, peut-être... Mes racines vont un peu plus loin que j'ai pensé.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est le silence, Stéphane Escher. Dans quelle mesure faire de la musique, ça a toujours été une façon de briser un silence pour vous?
Eh oui, c'est... Descends dans la cave, cherche des pommes. La cave est sombre, on a peur. Qu'est-ce qu'on fait? On siffle et on chante. C'est pourquoi on chante, on a peur d'aller dans la cave. Et si je me retrouve dans une espèce de cave, je commence à siffler ou à chanter, puis je les enregistre, c'est mes disques. Là, j'ai chanté très fort dans la cave, parce que j'ai vraiment eu peur. Voilà. Et j'étais pas seul, j'ai eu 12 musiciens avec moi. C'est une fanfare qui m'accompagne, il y a 3 batteurs, 9 cuivres dans la cave, ça fait du bruit dans la cave.
Alors, on va y revenir, mais celle qui me donne envie de siffler, moi, dans la cave, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture, Stéphane Escher, et son actualité bavarde, qui jacasse et qui ferait mieux de la mettre un petit peu en sourdine, si vous voulez mon avis. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 18 janvier? Havre pour l'esprit, le port normand accueille dès aujourd'hui le festival Le Goût des Autres, consacré cette année à l'évasion, à l'imaginaire, à la littérature du voyage. Axé autour de la lecture, sur scène, la manifestation invite comédiens, musiciens et auteurs à faire vivre et découvrir la littérature autrement. Au programme de ce week-end, des rencontres avec l'écrivain cubain Leonardo Padura et l'auteur surfeur William Finnegan, mais aussi un concert littéraire autour de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, et même une nuit vagabonde avec Pool Party et DJ Set. Impec. Oh oui. Métal pleurant, dessinateur de BD, illustrateur de pochettes de disques, musicien et pilier de la revue Métal Hurlant, Denis Cyré mort mercredi, il avait 65 ans, rocker dans l'âme, fasciné par l'Amérique des 50s et les belles motos. Cet artiste en perfecto avait imposé son trait sensuel et électrique dès la fin des années 70, proche de Dionne, Manœuvre, Möbius et donc des éditions Les Humanoïdes Associés. Il avait notamment signé les albums Lisabeth ou Racing. I connect motion to feeling. And Blake is back, événement de ce début d'année. James Blake vient de dévoiler Assume Form, son 4e album studio, entre ambiance hallucinée et voix fantomatique. Le génie londonien signe son opus le plus pop et multiplie les collaborations chic à ses côtés. On retrouve notamment André 3000 d'Outkast, le rappeur Travis Scott ou la jeune chanteuse espagnole Rosalia côté scène. James Blake se produira aux Nuits Sonores de Lyon le 29 mai prochain et ça c'est bien, bien, bien. Le musicien Stéphane Escher, invité de Boomerang ce matin pour ce disque, où vous reprenez certains de vos tubes accompagnés de l'ensemble Tractor Kestar, avec lequel vous êtes actuellement en tournée.
Oui.
On est aux antipodes de votre dernier projet, vous étiez tout seul avec des machines.
Oui.
Alors de quoi il est né précisément ce besoin de renouer avec l'humain et avec l'instrument, Stéphane?
La tournée solo entourée des automates musicales, qui était vraiment un projet, ça a pris un an de les construire, de les apprendre, de faire sens. Aller en tournée, j'étais un an et demi en tournée, je voulais plus être seul. Je vous jure, d'arriver après le concert, qu'on a mangé à côté de la gare tout seul, aller dans l'hôtel du coin et il y a seulement une seule clé qui traîne sur le comptoir et vous montez. Parallèlement, politiquement ou socialement, j'ai aussi remarqué que la solitude va cesser. Je crois que c'est des gens qui se rassemblent, qui vont changer qui vont attaquer un futur intéressant.
Mais bientôt, les ordinateurs parleront et seront presque humains, Stéphane.
C'est pourquoi il faut que la faute humaine, la fissure humaine, la faiblesse humaine, la tendresse humaine. Et c'est là, après la solitude des automates, j'ai tout de suite dit, je veux tourner en famille et une fanfare de 12 personnes, c'est pas mal.
Revenons aux ordinateurs. Un ordinateur, quel instrument est-ce que c'est pour vous? C'est un instrument de musique?
Au début, oui. Au début, parce que t'es extrêmement stupide, ça pourrait faire 1, 2, 3, 4, boum. 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est devenu un cerveau qu'on porte pas en nous.
C'est intéressant parce que très tôt, dans les années 70, vous avez commencé à vous intéresser à ce que pouvaient apporter les machines à la musique. Qu'est-ce qui vous intriguait?
La mélancolie d'une machine. Ça veut dire, si vous écoutez Kraftwerk, si vous écoutez Afrika Bambaataa, les premières chansons qui ont travaillé avec des loops, du sampling, et la répétition de ce sentiment me rend mélancolique. Je pense, je suis suisse, l'horlogerie, vous voyez, vous regardez une montre, déjà 10 minutes passées. Ça nous rend de voir le temps passer. Une machine nous fait sentir que le temps passe.
À partir de ces boucles dont vous parlez, ces loops.
Oui, c'est mélancolique pour moi, ça.
Pour autant, Stéphane, vous n'êtes pas né avec un ordinateur dans le berceau. La pratique de la musique, j'imagine qu'elle s'est d'abord faite par l'apprentissage d'un instrument. Quel est le premier instrument que vous ayez joué?
Accordéon.
Ah, c'est vrai?
Il était beaucoup trop grand. Il entrait. mon manteau était posé sur l'accordéon. Et si on ferme l'accordéon, ça coince les... Maintenant, j'ai une barbe. Je pourrais même plus jouer un accordéon.
Ne me dites pas que vous étiez un enfant à barbe. Non, je vous dis ça par grande angoisse, pas du tout pour vous faire rire. Ça m'a toujours beaucoup angoissé, les enfants à barbe, moi.
Ça existe?
Ça existe. J'en ai vu dans des films un peu bizarres.
Il ne faut pas regarder les films bizarres.
Quels sons est-ce que vous avez, ça dépend, quels sons est-ce que vous avez découvert en jouant de l'accordéon?
La tristesse profonde des basses d'accordéon.
Bah, dis donc.
Hurler, c'est triste, c'est à se flinguer.
Ah là, c'est vous qui me faites rire. Qu'est-ce qui fait la beauté pour vous? C'est la solitude et la tristesse, parce qu'à vous entendre, c'est ça, Stéphane Escher.
La beauté est dangereuse quand même. Je crois avant qu'on la peint lentement dans la Renaissance. Aujourd'hui, que chacun, on se photographie avec un filtre. Moi, je crois que la beauté, c'est comme l'Europe. Pendant 1-2 ans, ça va vraiment morfler. Parce que c'est horrible, la beauté, à ce moment-là. La beauté, ça me fait vivre, oui.
Quel est, à vos yeux, ou plutôt à vos oreilles, le plus beau son que vous ayez jamais entendu?
Un enfant qui se fout de votre gueule. Qui rigole dans son coin, parce que, ouais.
Et le son qui ne manque jamais de vous émerveiller?
Le vent dans un arbre, une fois que j'ai fait une promenade la nuit à Strasbourg, il y a une petite place avec un arbre qui était spectaculaire, et je suis allé dans un projet où j'ai voulu enregistrer chaque feuille de l'arbre et le reproduire dans mon studio. Je n'ai pas fait, mais ça, je voulais cet enregistrement.
Et le son que vous détestez, Stéphane Escher?
Des discussions politiques sur les radios françaises.
Le premier son que vous ayez entendu,
ça va être le boum, boum, boum de ma mère, je pense, non?
C'est un beau son, ça.
Oui.
C'est le son du cœur.
Oui.
On va continuer à parler de sons, de notes, d'accords et de mots, juste après une reprise en fanfare avec l'ensemble Tractor Kestar. Combien de temps ce tube?
C'est un son d'enfant, presque.
De 1987, oui.
Va changer, attention, attachez vos...
Bon, silence. Sur France Inter, avec Stéphane Escher, vous écoutez Boomerang.
L'ombre de mes cils, un seul regard. L'ombre de mes cils comme un rempart. Le plaisir facile, les amours d'un soir. Main d'un oubli subtil dans le nœud du foulard. Combien de temps,
si on reste face à face sans un mot, sans une dorme qui efface. Combien de temps, combien de temps? Et je bois, et je suis sous de toi. L'ombre de mes cris, flèche invisible. L'ombre de mes cris comme une scie. Les mots inutiles, sourire illusoire à vos questions futiles. Je réponds au hasard. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous le toit.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Bon, voilà, il n'y a pas de doute, hein, on est quelque part entre le dandy baudelairien rescapé du Second Empire, D'Artagnan, et la star du Puy du Fou. Le cheveu long, ondulé, ramené en arrière, la moustache et le bouc taillé à la serpe, le regard vif du maître fauconnier. Ah ben, le regarder, c'est comme lire une histoire qui commencerait par Il était une fois, et dont il serait le héros, on l'imagine, à d'autres canassons, dans la montagne enneigée, bravant les intempéries helvètes pour sauver la belle d'un dragon ou d'une gastro, avec son petit foulard aujourd'hui autour du cou, le musicien Stéphane Escher.
Ah bah, ouais. C'est une maladie, ça.
Bon, on peut sauver quelqu'un d'une gastro, figurez-vous, avec des médicaments et avec beaucoup de repos, cher Stéphane. Invité de Boomerang, ce qui m'a frappé en écoutant votre reprise de Combien de temps, c'est évidemment votre voix. Elle change pas, votre voix.
Elle a perdu de beauté depuis que j'ai... Je rigole. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai perdu des basses et tout
ça.
Ah
oui, alors ça, vous rigolez beaucoup, parce que ça passe pas du tout auprès des auditeurs de France Inter, je vous préviens. Non, moi, je me fais engueuler parce que je fume tout le temps.
Non, mais j'adore les fumeurs, mais j'ai arrêté parce que c'est vraiment une connerie. Oui. Mais pour la voix, c'était, j'ai perdu un peu de profondeur. Je dois me rapprocher un peu plus du micro, mais ça fonctionne.
Quand est-ce que vous avez commencé à chanter, tiens?
17 ans. C'était dans un groupe qui s'appelait Grauzone, Grauzone, Eisbär. C'était mon premier groupe.
Vous chantiez quoi?
En allemand. Des textes très très froids. Et j'adorais chanter à l'école. Là. Oui. J'adorais chanter des Schubert, toutes ces choses-là. Ouais.
Vos parents chantaient, eux aussi? Je crois que votre père était violoniste.
Il est. Mon père était musicien. Ma mère, un peu, elle vient de l'Est aussi, de l'Est de la Suisse. Et elle a un accent à couper un morceau de barre d'or suisse. on se fout un peu de sa gueule, mais... Oui, moi j'adore chanter, j'adore.
Dans quelle atmosphère musicale est-ce que vous avez grandi?
Une famille normale qui était pas toujours d'accord, sauf on a eu toujours une pièce là où on habitait, où il y a la collection de mon père, de instruments de musique. J'ai deux frères et on est descendu avec mon père faire de la musique. Et c'est là que j'ai compris, c'est là la solution pour tous les problèmes. Jouer de la musique ensemble.
Mais quel problème? Quel adolescent est-ce que vous étiez?
J'étais très difficile, très très chiant, très très têtu, très très...
Vous ennuyiez beaucoup à l'époque?
Pas ennuyé, mais c'était très clair ce que je supportais pas, voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'un enfant ou un adolescent supporte pas. Mais avec le temps, je commence aussi après de me focusser de ce que j'aime beaucoup. Et depuis que j'ai peut-être 25, 6 ans... C'est ça que je m'occupe, ce que j'aime.
C'est pas pour rien que je vous parle d'ennui, parce que je sais que ça vous fait peur.
Pas du tout, ennui. Ah non, c'est le luxe. Peut-être, ça dépend. Aujourd'hui, je crois, l'ennui, c'est le luxe. Si vous avez quelqu'un dans un train qui est pas sur son smartphone, mais qui le regarde mélancoliquement par la fenêtre, je dis « Yes !» Son âme se repose. Non, il faut. Je crois qu'il y a bientôt des hôtels de luxe où vous allez vous ennuyer. Sans blague, je suis... totalement sûr.
Ça vous arrive, vous?
J'adore. Je sais m'ennuyer, champion du monde.
Et ce sont des moments...
Et ça me repose.
Et où ça nourrit?
L'ennui, c'est le moment où on est vraiment dans une réalité arrêtée un peu. Vous voyez? L'ennui, ça va coûter des fortunes pour aller dans un île bizarre où il n'y a pas de wifi. Ça, on va payer des fortunes pour ça.
Qu'est-ce qui fait une bonne chanson pour vous, Stéphane Escher, en fin de compte?
Philippe Tian. C'est lui qui fait une bonne chanson. Ça dépend. Une chanson française, il faut une mélodie, ça c'est sûr. Et le texte, j'ai l'impression. En anglais, le texte, ça sent très, très vite bien. Bebop, Lula, she's my baby, ça veut rien dire, mais ça sent bien. En allemand, il faut une structure. Toute la chanson, du début jusqu'à la fin, doit tenir dans une espèce de symétrie ou une désymétrie. Je continue. En italien, tout sonne bien.
Parce que chaque mot se répète. Un peu tout ça, en fait.
Moi, je suis un pot-au-feu.
Un artiste européen?
Non, un pot-au-feu. Je choisis le mot français.
Européen.
Lancer le bouchon trop loin, c'est le rôle d'un artiste, quelque part. D'éclater un petit peu ce qui est raisonnable, à la limite. On n'est pas là pour être raisonnable. On est au contraire là pour donner peut-être une autre idée de paradis, peut-être, je sais pas. Je veux tout me permettre dans le langage et en même temps, il y a une cohérence. Ça doit pas être gratuit, sinon c'est nul. Mais en fait, ça correspond quand même, quand je dis je cloue des clous sur des nuages, je veux dire, je n'ai pas forcément une idée optimiste de tout ce qui va se passer par la suite si j'additionne tout ce qui va pas très bien. Mais en même temps, je passe quand même mes journées à faire des choses avec un enthousiasme imperturbable, parce que je... Donc il y a ces deux attitudes, il y a une espèce d'attitude lucide, quelque part, de se poser des questions sur notre avenir, et puis en même temps, mes actes sont complètement optimistes, quelque part, parce que je continue à clouer des clous, malgré le fait que ça tiendra pas jusqu'à la fin. On s'en fout, je continue quand même.
Clouer des clous sur des nuages, Alain Bachung, évidemment, Stéphane Escher, que l'on entend ici parler de son art. Qu'est-ce que ces mots vous évoquent?
Une tristesse, parce que je l'ai rencontré, qu'il n'arrivait plus de s'exprimer. Là, il nous explique pourquoi il s'exprime et ce qui lui fait vivre. Et quand je l'ai rencontré en 2005-2006, il a dit « j'arrive plus, moi je suis freiné par... » Désolé, par ma maison disque, qui voulait un disque de lui, qu'il n'a pas eu envie de faire. Et j'ai trouvé, il exagérait un peu dans nos discussions, mais 5-6 ans plus tard, je suis arrivé au même moment de... comment on appelle ça quand, tout à coup, on remarque qu'on n'est pas assez fort de continuer contre des idées d'industrie de disques, des idées de virer des gens dans des
maisons. Un découragement.
Un découragement, voilà, un découragement. Après lui, il est intelligent. Il a recommencé le disque avec Gaëtan Roussel, qui est devenu le dernier disque qu'il a fait. Mais j'ai entendu maintenant que ce disque qu'il aimait pas trop, il est quand même sorti après 10 ans, peut-être.
Bachung, j'ai l'impression que c'est toujours aussi difficile pour vous d'en parler.
Oui, parce que je viens de la Suisse. Lui vient vraiment de l'Alsace, je crois. Il est grandi un peu avec une culture allemande à côté. C'est pas un Parisien, c'est pas quelqu'un de Nice, c'est pas un Toulousien, ça se sent, son cerveau est structuré un peu différent. Et de temps en temps, je me sens un peu seul en France. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des amis dans les artistes contemporains, j'ai des amis dans les écrivains, mais j'ai pas beaucoup d'amis en musique. Il y a Rudolf Burger, Christophe Miossec, il y a des gens, mais à Monsieur Bachung, Je me suis toujours dit une carrière comme ça, waouh. Ou Étienne Dao reste aussi pour moi quelqu'un que je dis, waouh, ça c'est une carrière. Mais il n'y a pas trop chez vous que je fantasme. Oui. Et lui, je fantasme. C'est que vous avez entendu comme il parle. Il parle bien.
Vous aussi, vous parlez pas mal.
Avec un accent, j'ai entendu.
Je vous propose, si vous le voulez bien, Stéphane Escher, de vous lever et d'aller vous asseoir au piano du studio 621, puisque vous avez choisi de nous interpréter en avant-première. Prisonnière, au piano, un titre de votre nouvel album qui sortira un peu avant l'été, écrit par Philippe Dian. C'est un cadeau. Et je vous en remercie.
On va voir, parce que je joue vraiment mal du piano. Et
on la connaît l'histoire. Allez, c'est parti. En route, mauvaise troupe.
Voilà, j'y vais.
Mais c'est encore mon cher,
Mais c'est encore vous, mon cher, me dit-elle tout à coup, me dit-elle tout à coup. Où je me sens de vous prisonnière, où je me sens de vous prisonnière. Faites-moi ce que vous, faites-moi ce que vous. Donne-nous rendez-vous à la rivière. Donne-nous rendez-vous à la rivière. Lave-nous de la boue. Lave-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites-moi ce que vous. Faites-moi ce que vous.
Prisonnière, un titre qu'on entend pour la première fois, Stéphane Echard, qui figurera sur votre prochain album en juin. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Hu, votre album avec Tractor Kestar, sort dans un mois et que vous êtes actuellement en concert ce soir à Sénart, puis à Lille, La Rochelle, Bordeaux, Vitrolles, j'en passe, sans oublier un Grand Rex le 2 février.
Oui.
On y sera. Merci à vous.
Oui, je vais exagérer. Je vais vraiment, je me disais, avec ce groupe-là, il faut une soirée vraiment exagérée. C'est là, je vais... Plus, c'est vraiment plus pour cette soirée.
Alors plus, merci encore plus. Et merci à toute l'équipe de Boomerang aussi. Lola Costantini,
oui, merci.
Valentine Chenebois, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Paul Guillotte,
oh, merci.
Et Jean-Baptiste Audibert.
Et merci.
Pour cette fort belle semaine. Tout de suite les médias, Sonia Deville. Vous m'entendez, Sonia?
Mais oui, Augustin.
Ah bah tant mieux.